Bonsoir à toutes et à tous. La France est le pays le plus attractif d'Europe sur le plan économique, selon une toute dernière étude du cabinet EY. Et pourtant, Renault annonce aujourd'hui même la suppression de 4 600 emplois, 10 000 dans le monde, et la fermeture de l'usine de Choisy-le-Roi. Renault qui bénéficie d'une aide d'État de 5 milliards d'euros, mais qui s'engage en échange à relocaliser en France la production à valeur ajoutée. Après des années de délocalisation, comment mettre en œuvre cette politique de relocalisation voulue par Emmanuel Macron? Dans les médicaments également, comment relocaliser alors qu'on a tous découvert avec cette épidémie qu'on dépendait très largement de la Chine pour nos médicaments? Quel avenir pour nos industries, pour nos emplois et finalement nos territoires? Quel modèle à suivre? Cette crise va-t-elle marquer le déclassement ou au contraire le sursaut de notre économie? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Médicaments, industrie, relocaliser, c'est possible ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteure de « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?» C'est à la documentation française. Sophie Fay, grand reporter à l'Obs. On vous entend par ailleurs tous les matins sur France Inter pour l'Histoire écho du jour. En visioconférence, Eli Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur du « Décrochage industriel », c'est chez Fayard. Et enfin, Christine Kerdelan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. L'Usine Nouvelle qui prépare justement un dossier sur la relocalisation dans le secteur de la chimie et de la pharmacie. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur de « De Gaulle et les femmes », c'est chez Robert Laffont. Merci d'être là et d'assister à cette émission. Sophie Fay, on commence par vous. Il y a une pluie de mauvaises nouvelles. On a eu les très mauvais chiffres du chômage, 843 000 nouveaux chômeurs pour le mois d'avril. On a aujourd'hui ce plan d'austérité chez Renault. Et hier, on a appris, surprise générale, c'est le cabinet EY, hein, c'est l'ancien Ernst & Young, qui nous dit que pour la première fois, la France a décroché le trophée d'économie la plus attractive d'Europe. Voilà, on va regarder le hit parade. Nous avons attiré, nous allions attirer 18,7% des investissements étrangers, ce qui nous plaçait devant le Royaume-Uni, que nous avons donc dépassé, et devant l'Allemagne. Alors, ça paraît très surprenant, la France, pays le plus attractif d'Europe. Ça vous a surpris? Comment analyser cette première place?
C'était une bonne nouvelle, mais c'était une nouvelle de 2019, en fait. C'est le résultat de la politique économique menée par François Hollande, par Emmanuel Macron. Alors, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'on voyait que les investisseurs étrangers, les patrons de filiales, n'ont pas attaché trop d'importance au mouvement des Gilets jaunes ou aux grèves. En tout cas, ils n'ont pas considéré que c'était quelque chose qui était négatif pour l'image du pays, puisque un tiers d'entre eux considère dans ce baromètre que la France a amélioré son attractivité et la moitié qu'elle s'est stabilisée. Ils pensent que ces mouvements, au fond, c'est mieux, c'est un meilleur, un avertissement qui est plus porteur pour le pays que le Brexit ou par exemple le vote pour un président populiste. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est que tout ça, c'était fait en février de cette année, donc avant la crise du Covid. Et la grande peur de EY, c'était que les opinions se soient retournées en voyant qu'on manquait de masques, qu'on manquait de respirateurs, qu'on n'avait pas de tests et que cette crise sanitaire ait été mal appréciée par ses patrons. Donc ils ont fait une deuxième vague d'enquête fin avril. Et cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas décalé leur image de la France, puisque... Alors, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne nous comparent plus avec l'Allemagne. L'Allemagne est passée hors catégorie. Mais en même temps, l'Allemagne, c'est difficile d'y installer des usines parce qu'avec un taux de chômage à 4%, on a du mal à recruter. Donc, ils nous comparent plutôt avec le Royaume-Uni. Et là, sur la gestion de la crise sanitaire, on a été plus à la hauteur. Enfin, ils considèrent qu'on a eu une bonne gestion et que surtout, on a eu une très bonne gestion sur le plan économique. Et donc, ils nous comparent plutôt avec les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande. Et sur ce plan-là, la France se situe pas mal. L'autre problème, c'est que les patrons disent qu'ils vont annuler certains projets. Certains projets qui étaient lancés en 2019, on ne les verra plus en 2020.
Il y en a un tiers qui serait plus ou moins abandonné. Ouais.
Et là aussi, c'est une mauvaise nouvelle globalement, mais la France est exactement dans la moyenne européenne. Donc on ne devrait pas...
Dans les autres pays aussi, il y a un tiers des projets d'investissement qui seraient plus ou moins abandonnés à cause de l'épidémie.
Voilà, exactement. Il n'y a qu'en Pologne, par exemple, que ce serait qu'on ne toucherait à rien. Et donc finalement, on arrive à garder notre classement. Bon, il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont interrogé ces patrons sur les relocalisations. Ah oui. Et ces patrons disent, on va relocaliser, entre guillemets, on va régionaliser les chaînes de production. C'est-à-dire que pour l'Europe, on veut produire en Europe, pour l'Asie, en Asie, pour les États-Unis, enfin pour l'Amérique, en Amérique. Donc on va resserrer, mais on resserrera aux portes de l'Europe, c'est-à-dire Europe de l'Est, Turquie, Maghreb. et pas tellement en France.
Pour eux, relocaliser, ça veut plus dire le Maroc, la Slovaquie ou la Turquie, pas forcément
pas
la Bourgogne ou la Normandie.
Non.
Christine Cardellan, quelles sont-elles ces entreprises étrangères qui décident d'investir en France? Dans quel secteur et pourquoi et que viennent-elles chercher chez nous?
Alors, celles qui arrivent largement en tête, ce sont les Google, les Facebook, les IBM, les Amazon. C'est-à-dire, je fais peut-être une exception pour Amazon qui vient sans doute chercher un point de logistique pour distribuer ses produits. Mais les autres, ils viennent surtout chercher des ingénieurs français parce qu'ils sont très bons pour faire de l'intelligence artificielle, pour travailler sur les data. C'est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée et ils ont un mal fou aux États-Unis, toutes ces entreprises, à trouver des ingénieurs aussi qualifiés que les ingénieurs français. Donc, c'est une bonne chose qu'ils viennent investir en France, mais en même temps, comme vous voyez que les entreprises du CAC 40 cherchent aussi désespérément des ingénieurs très qualifiés pour développer leurs propres activités d'intelligence artificielle, de data, on ne se peut pas seulement se réjouir. Alors, c'est vrai qu'il est probable que ces investissements-là ne seront pas abandonnés parce que les entreprises du numérique, elles ont bien passé la crise. Certaines ont même augmenté leur chiffre d'affaires pendant la crise. Je vois au niveau de l'usine nouvelle, les seules qui ont continué à apporter de la publicité, c'était les entreprises du numérique. Donc je pense qu'elles continueront aussi à mener leurs projets d'investissement en France.
Sylvie Matelli, est-ce qu'on n'a pas finalement une image très noire de nous-mêmes? On se dit que nous avons été lamentables dans la gestion de cette crise, qu'on nous avons été infoutus d'avoir des masques. On se dit que vis-à-vis de l'extérieur, nous sommes pays des grèves, le pays des gilets jaunes, le pays... Et alors pour les patrons en plus, ils n'aiment pas nos 35 heures, ils n'aiment pas notre fiscalité. Ben non, malgré tout, ils décident de venir en France. Ça peut... On se dit, mais... On est sévère avec nous-mêmes, finalement, non ?
Oui, en partie. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au début des années 2000, le classement était souvent celui-ci. C'est-à-dire la France se disputait la première place en termes d'attractivité au niveau européen avec les Britanniques. Donc, un pays très attractif. Pourquoi très attractif au début des années 2000 ? Parce que, on l'a dit pour Amazon et ce centre logistique, on est au cœur, en fait, de la zone euro. Et donc, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique d'être installé en France pour après profiter et du marché unique et de la zone euro. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, la crise de 2008 était venue donner l'avantage à l'Allemagne. L'Allemagne qui attirait assez peu, ou en tout cas moins que les Anglais ou les Français, les investissements étrangers, avait vraiment tiré parti de cette crise de 2008 pour se repositionner. Or, il se trouve que la France et les gouvernements français qui se sont succédés ont essayé de lutter contre ça avec des stratégies industrielles qui se sont superposées les unes aux autres, un certain nombre d'avantages financiers, fiscaux, on pense au crédit impôt recherche en particulier, qui ont conduit à la fois à moderniser l'industrie française, c'est assez net cette modernisation depuis 5-6 ans, et puis à accorder des avantages qui attiraient bien évidemment les investisseurs étrangers, qui plutôt que d'aller s'installer dans des pays où c'était beaucoup moins avantageux, s'installaient en France. Donc ça c'est l'aspect français, et ça explique effectivement ce rebond qu'on constate depuis 2-3 ans, même si pour Ernst & Young c'est la première année qu'il classe la France en premier. Il y a un autre phénomène qui joue, c'est aussi les déboires ou les handicaps de nos voisins européens. Côté britannique, vous avez le Brexit qui a entraîné un certain nombre de relocalisations ou de délocalisations d'entreprises britanniques sur le territoire français. Les Hauts-de-France, par exemple, en ont beaucoup profité parce que avec les difficultés des négociations sur le Brexit, beaucoup ont parié sur le no deal et le risque de no deal et toutes les ruptures de chaînes et ruptures d'approvisionnement que ça pouvait occasionner. Donc ça, c'est vrai que ça a été très favorable à la France. Et puis, un véritable ralentissement l'an passé de l'industrie et de la production industrielle en Allemagne, avec en plus un certain nombre d'experts qui parier sur un déclin de l'industrie allemande parce que c'était l'automobile, parce que c'était des secteurs,
secteurs
vieillissants, alors qu'effectivement la France avait plutôt investi et s'était plutôt positionnée ces dernières années dans le digital et dans des technologies beaucoup plus modernes. Donc tous ces éléments mis bout à bout, effectivement, ont donné cet atout à la France et ses résultats aujourd'hui de cette étude.
Élie Cohen, hier, on a quand même appris que le chômage avait fait un bond de 22%, que la croissance au deuxième trimestre allait chuter de 20%, et on a eu ce classement. Comment l'avez-vous accueilli, ce classement qui nous place en tête des pays les plus attractifs en Europe ?
Écoutez, vous êtes un investisseur étranger, vous voulez vous implanter en Europe. Alors, comme ça a été dit, si vous voulez vous implanter dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, vous avez ce gisement français d'ingénieurs. Ça, c'est une donnée. Vous voulez investir dans l'industrie, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent investir dans l'industrie, notamment dans l'industrie européenne. On est sur un fonds de désindustrialisation. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'Allemagne est déjà en plein emploi. Vous n'allez pas aller au Royaume-Uni, qui est en période de Brexit. Et puis surtout, comme ça a été dit également, il y a eu toute une série de réformes qui ont amélioré l'image de la France. Mais maintenant, j'insiste sur ce qui vient de se passer dans la période récente. Je pense qu'à l'étranger, on a étudié ce qui s'est passé dans deux ou trois cas récents. Premièrement, cette affaire Amazon. On a quand même fait fermer des dépôts à Amazon et je pense qu'Amazon va réfléchir sur sa politique de logistique. La France est le pays rêvé pour la logistique au niveau européen. Normalement, tout le monde devrait venir s'installer en France compte tenu de la centralité géographique de la France. Avec la décision qui a été prise sur Amazon, je pense qu'on va réfléchir à deux fois. Deuxième décision, cette fermeture d'une usine automobile pour un vice de forme dans la notification qui a été donnée au syndicat sur un problème de rouverture d'une usine.
Tout le monde a en tête. Rappeler parce que la justice a ordonné la fermeture du dépôt d'Amazon et la fermeture de l'usine Sandouville de Renault.
Exactement. Donc, je pense que lorsqu'on devra reconsidérer des décisions d'implantation en France, on aura en tête ces éléments-là. Donc, oui, la France est normalement le lieu normal pour l'établissement d'entreprises dans le numérique, dans la logistique et accessoirement industrielle compte tenu de sa centralité géographique. Oui, la France a fait des réformes, mais je me demande si on ne risque pas de gâcher ses atouts avec les affaires que je viens de mentionner.
Voilà. Et donc, en attendant, il y a eu cette annonce du plan de restructuration chez Renault. 15 000 emplois supprimés dans le monde, dont 4 600 en France. Le plan social annoncé ce matin chez Renault tranche dans le vif. Les syndicats évoquent une casse sociale, une stratégie suicidaire. Mais le constructeur, très affaibli par la crise du coronavirus, doit se restructurer. Le but, économiser 2 milliards d'euros sur 3 ans. Sujet de Pierre Millet et Aurélie Saner.
Ils attendaient la nouvelle depuis plusieurs jours. Ce matin, les 260 salariés de Renault à Choisy-le-Roi ont été fixés. Leur usine fermera d'ici 2022.
Il faut se battre, monsieur.
C'est un coup de massue, c'est un choc pour nous tous. On a été habitués à travailler dans ce site. C'est un petit site, donc ce qui fait qu'on a l'esprit de famille.
Tu t'apprends ça aux infos à la télé. T'as plus confiance dans ton entreprise, t'as plus confiance dans ton travail, tu perds tout.
C'est le seul site Renault qui fermera en France, dans le cadre d'un plan de relance présenté par la direction du groupe. Le constructeur vise 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, avec comme premier levier l'emploi. 15 000 suppressions annoncées dans le monde, 4 600 en France, où 6 usines sont concernées. Celle de Douai et Maubeuge devrait fusionner. Celle de Dieppe sera réévaluée comme à Caudan. Seule l'usine de Choisy-le-Roi disparaîtra donc et ses employés seront relocalisés à Flins.
Croyez-moi, chaque décision, chaque mesure d'économie a été longuement sous-pesée. En pensant aux salariés, que bien entendu ces décisions pourraient être troublées. C'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre des décisions difficiles. Et nous le faisons car nous avons la conviction que ces décisions sont les bonnes.
La direction de Renault promet qu'aucun licenciement dit sec ne se produira. Ce sera l'un des enjeux des prochaines négociations entre le groupe et les syndicats qui débuteront bientôt. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recevra certains d'entre eux mardi prochain. Bruno Le Maire qui avait évoqué la gravité de la situation le 22 mai dernier.
Oui, Renault peut disparaître.
S'il n'y a pas un plan d'économie conséquent.
Oui, Renault peut disparaître. Oui, les grands constructeurs industriels peuvent disparaître. Il faut être lucide. Ma constante dans cette crise économique a été de dire la vérité aux Français. Je n'ai jamais caché la gravité de la crise et je ne cache pas la gravité de la situation de Renault.
Alors que l'État est le premier actionnaire de Renault, Emmanuel Macron s'est même rendu sur le site de Douai. Devant les dommages financiers causés par l'arrêt de production en pleine période de virus, il a garanti une aide de 5 milliards d'euros pour redresser la barre et des aides supplémentaires pour tout le secteur.
Le secteur a connu une baisse d'activité en moyenne de plus de 80%. C'est sans précédent, hors temps de guerre. Il nous faut trouver aujourd'hui à la fois les moyens de défendre notre tissu industriel sur toute la chaîne de valeur, relancer la machine et déstocker et préparer demain.
5 milliards pour le constructeur et en contrepartie la préservation de l'emploi et davantage de place pour l'électrique dans la production. Mais le Covid est-il seul responsable de la situation du groupe ? Si le virus et ses conséquences ont fortement affecté les ventes, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi était déjà en grande difficulté.
Il y a eu des mauvaises décisions stratégiques qui ont été prises, des renouvellements de gamme qui ne se sont pas faits, l'échec d'Infiniti qui se retire d'Europe, qui est le département luxe de Nissan. Il y a des tas de mauvaises décisions qui ont été prises dans les années précédentes et Nissan ne va pas bien. Et du coup, la trésorerie, l'argent dont dispose dans ses finances le groupe n'est pas très bonne, alors que d'autres groupes automobiles qui ont une meilleure santé sur beaucoup plus d'années vont beaucoup mieux, typiquement Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW.
Si cette période semble marquer la fin de la crise sanitaire, elle peut être le début d'une crise sociale pour Renault. Le site de Maubeuge et ses 2100 salariés s'est mis en grève après l'annonce du plan de relance.
Alors, question téléspectateur, le Covid-19 n'est-il pas un alibi tombé à pic pour que Renault puisse justifier le licenciement de 4600 salariés, alors même s'il s'agit de suppression d'emplois? Sophie Fay, est-ce que les difficultés ne préexistaient-elles pas à cette épidémie chez Renault?
Alors, le Covid n'arrange rien, mais les difficultés étaient là bien avant. Et d'ailleurs, Jean-Dominique Sénard l'a reconnu très honnêtement. Il n'a pas du tout essayé de charger le Covid. Il a bien expliqué que le problème de Renault, c'était que les capacités de production en France étaient de l'ordre d'un million de véhicules, alors qu'on en écoule... Enfin, ça, c'est les capacités de production. En réalité, on en fabrique 650 000. Donc, l'outil de production tourne à 65% de ses capacités. Et ça, à long terme, ça
peut pas... Carlos Ghosn avait poussé la stratégie de volume pour être numéro un mondial, c'était ça ?
Carlos Ghosn voulait dépasser Toyota. Donc,
il l'a fait d'ailleurs. Il y a deux ans, Renault avec Nissan et Mitsubishi était numéro un mondial. Donc, et vous voulez dire on le paye aujourd'hui avec des usines trop grandes ?
On le paye aujourd'hui avec des usines trop grandes, des gammes mal ajustées. Et puis, on paye surtout un discours qui ne correspondait pas. Vous vous souvenez, on l'avait vu à Maubeuge avec Emmanuel Macron. Ils avaient présenté Maubeuge comme l'usine modèle, l'usine parfaite. Et puis finalement, là maintenant, on dit aux salariés de Maubeuge, bon ben voilà, on va réfléchir, il faut peut-être fusionner avec Douai, faut peut-être... Et donc, pour les salariés, c'est terrible, quoi. C'est difficile de ces changements stratégiques. Et là où le Covid a une responsabilité, c'est que... Le dernier gros plan d'ajustement avait été vraiment discuté avec les partenaires sociaux. Et là, ils sont un peu mis devant le fait accompli. Et l'ambiance chez Renault n'est pas très bonne.
Vous voulez dire quand on est un salarié de Maubeuge, dire bah, finalement, vous allez travailler à Douai, c'est pas forcément...
C'est pas facile. Quand on regarde ça de loin, de Paris, peut-être que ça peut paraître près. Mais sauf qu'il y a 60 km entre les deux qui ne sont pas faciles à faire tous les jours. C'est pas le même bassin de vie. C'est la même chose entre Choisy-le-Roi et Flins. Et tout ça n'a pas été... Tout ça tombe d'en haut à cause du Covid, parce qu'il faut aller vite à cause du Covid. Tout ça tombe de Paris. Et n'a pas été forcément bien préparé avec les partenaires sociaux.
Élie Cohen, cette semaine, le président Macron a présenté un plan pour relocaliser l'industrie automobile en France, pour qu'elle renaisse de ses cendres. Deux jours après, Renault annonce la fermeture d'une usine à Choisy-le-Roi. Et en plus, Renault obtient un chèque de 5 milliards garanti par l'État. Est-ce que là, où est la cohérence entre ces deux informations qui sont contradictoires ?
Ben, la cohérence, c'est que Renault vit une crise majeure. Ça a été dit, mais il faut d'abord rappeler qu'en 2019, Renault a été en perte. Et plus grave encore que cela, Nissan, qui était sa source essentielle de cash depuis des années, a fait des pertes incroyablement importantes. C'est-à-dire que d'un seul coup, Renault a dû cumuler ses pertes, plus celles de Nissan, plus l'interruption du flux de trésorerie. Ça a révélé un problème plus ancien et qui commence à être dit maintenant, c'est l'échec de la stratégie de volume qui avait été celle de Carlos Ghosn. Les surcapacités de production de Renault se constatent partout. Et d'ailleurs, l'une des décisions majeures qui a été prise, c'est qu'on n'allait pas faire les extensions d'usines qui avaient été prévues en Roumanie, en Turquie, au Maroc et ailleurs. Donc, crise du modèle économique qui était basé sur le volume, crise de gamme, ça a été dit tout à l'heure, avec la difficulté à passer au sud, crise de gouvernance. Renault n'est plus gouverné depuis le départ de Ghosn, et donc un certain nombre de décisions stratégiques n'ont pas pu être prises. Et donc aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle Renault perd consomme du cash à hauteur de 600 millions d'euros par mois, c'est-à-dire 3 milliards en 5 mois. Donc l'entreprise perd des ressources en permanence et elle a besoin pour sa survie de l'aide de qui d'abord ? Des banques, puisque donc les 5 milliards, c'est un crédit bancaire qui est garanti par l'État, mais c'est donc d'abord un crédit bancaire pour sauver les meubles, si j'ose dire, pour faire face à l'hémorragie permanente. On a vu que la vente de voitures s'était effondrée de 80% en France, donc il faut bien voir que l'entreprise est en péril. Et ce que fait l'État aujourd'hui, c'est d'essayer de sauver cette entreprise en garantissant un crédit qui est fait par un syndicat de banque à hauteur de 5 milliards. Si j'ose dire, l'aide de l'État ne se matérialisera que si Renault fait faillite ou si Renault n'est pas capable de rembourser ses dettes. Donc il faut bien avoir présent à l'esprit que c'est un crédit bancaire et que la responsabilité de l'État ne sera engagée que si Renault disparaît, ce que personne n'imagine pour le moment et ce que personne ne souhaite. Donc que dans ce contexte-là, le patron de Renault dise il faut une restructuration de l'appareil de production, il faut éliminer les doublons, d'abord au sein même du groupe, hein, puisque ce qu'il a dit également, c'est que dans ce groupe dysfonctionnel, Renault, Mitsubishi, Nissan, chacun faisait des développements, et donc au total, il y avait des redondances et des surcoûts. Donc le plan qui vient d'être décidé, c'est d'abord de resserrer les écrous pour que le groupe fonctionne mieux. Ensuite, il faut éliminer les surcapacités, et ça, c'est le problème de ce qui a été avancé aujourd'hui et du plan que Nissan va annoncer. Et après, la question des relocalisations ne se pose que dans ce contexte-là. Est-ce que vous croyez un seul moment que Renault soit en situation de fermer aujourd'hui des usines au Maroc et en Turquie pour rapatrier des productions et les faire en France ? Ce serait une perte sèche et ce serait la violation d'engagement vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de la Turquie et de la Roumanie. Donc Renault ne fera jamais ça. C'est pour ça qu'en fait, ce que demande véritablement le gouvernement en échange de la garantie du crédit qui est fait, c'est que les constructions nouvelles, les produits nouveaux, les lignes de fabrication nouvelles dans le domaine des nouveaux produits électriques soient localisées en France. Et c'est ça qui doit conduire à la spécialisation de la plateforme de Douai dans la production de véhicules électriques. Et c'est ça les véritables termes du compromis négocié entre l'État et Renault. Il n'est bien sûr pas question de rapatrier brutalement des usines qui se développent ailleurs. Il est au contraire décidé que pour le développement de la filière électrique demain, on implante en France les lignes de production, et ce d'autant que parallèlement à ça, le gouvernement finance un plan batterie avec l'Allemagne, qu'on va localiser en Allemagne et en France des usines de batterie. Et donc l'idée, c'est que dans la nouvelle production électrique, compte tenu du rôle moteur des batteries, eh bien, on est à proximité la fabrication de batteries, le groupe motopropulseur et l'assemblage des nouveaux produits. Mais donc, rapatrier des citadines en France, ça, je n'y crois pas.
Donc, quand on parle de relocalisation, si je vous ai bien compris, il s'agit de créer en France une filière haut de gamme sur les voitures électriques. Ça veut dire que toutes ces petites citadines, là, la Clio, la Twingo, Sylvie Matelli, on ne peut pas les fabriquer en France. Donc, c'était un choix suicidaire pour notre économie que de se spécialiser sur ces petites voitures. Résultat, toutes nos usines ont fermé et on les fabrique aujourd'hui en Slovénie. Au fond, on paye ce choix-là.
On paye ce choix-là, mais si ce choix a été fait, c'est parce qu'il y avait un marché. Mais c'est vrai que c'est un marché, le marché de la petite citadine, qui, sur chaque voiture, la plus-value est extrêmement faible. Donc vous ne pouvez pas vous permettre, vous devez serrer vos coûts au maximum, et vous ne pouvez pas vous permettre de produire ça en France. Effectivement, il y a une autre... Dans les choix de relocalisation, je crois que c'est important de préciser qu'on ne va pas effectivement fermer des usines à certains endroits et relocaliser. On est vraiment dans de nouveaux investissements. Et là, il y a une obligation pour l'État de gérer ce qui pourrait être interprété comme une autre incohérence, c'est-à-dire sa volonté d'aller vers une transition écologique et puis la nécessité d'investir pour des raisons, parce que Renault, c'est une entreprise française, c'est une partie de l'histoire industrielle française, pour des raisons sociales également, d'investir dans cette entreprise et de soutenir cette entreprise. Donc je crois que... bien, quand on a tiré tous les enjeux et qu'on a défini tous les défis qui étaient posés, effectivement, la seule solution, c'était investir, mais investir dans de nouvelles productions, assurer, accompagner cette entreprise vers la modernité, en fait, et la voiture de demain.
Christine Kerdelan, quand Emmanuel Macron demande à ce que soit relocalisée la production à valeur ajoutée en France, en fait, c'était une façon de dire Je vous préviens, mes amis de Renault, la voiture électrique, elle ne doit pas être faite par votre partenaire Nissan, elle doit être faite made in France. Parce que c'est, y a un risque, c'est que, au fond, la voiture du 21e siècle nous échappe.
Tout à fait. Donc, je pense que c'est exactement le sens du discours d'Emmanuel Macron. Tout ce qui est à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'électrique, l'hydrogène éventuellement, les voitures autonomes, tout ce qui, les hybrides, tout ce qui... tout ce pourquoi la main-d'œuvre, le coût de main-d'œuvre est assez faible dans le coût global de la voiture, peut être relocalisé, être localisé, puisque ça n'existe quasiment pas ailleurs, en France. Mais il y a une chose que je voudrais dire quand même à propos du plan de suppression d'emplois de Renault, c'est que pour moi, ça s'inscrit dans la continuité. Ça fait 15 ans que les constructeurs français PSA et Renault abandonnent la France, lâchent la France peu à peu. En 2004, on produisait 3 600 000 véhicules en France au total. Aujourd'hui, cette année, ça va être 1 700 000. Et ça s'est fait à bas bruit, c'est-à-dire que Carlos Ghosn a été suffisamment habile pour ne jamais fermer de site de manière comme on le fait aujourd'hui, un peu avec Choisis le Roi, mais simplement en déshabillant progressivement les sites d'une production d'une voiture ou d'une autre et en allant la mettre au Maroc ou effectivement en Roumanie. Et donc, ce n'est absolument pas nouveau. La filière, elle employait 200 000 personnes en 2011, elle emploie plus que 110 000 personnes. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité, c'est simplement un peu plus franc que d'habitude. Mais on peut quand même dire que la course au volume de Carlos Ghosn n'a pas du tout profité, même un temps, à la France. Il n'a jamais ouvert de site de manière importante. Et donc, on s'inscrit dans la continuité. Et c'est bien de pouvoir quand même faire une espèce de chantage sur les constructeurs en échange de l'aide, de dire, voilà, vous, cette fois-ci, vous localisez au moins les productions à forte valeur ajoutée en France. Je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que Toyota, à Valenciennes, est capable de fabriquer des petites voitures, oui. Donc des voitures sans une énorme valeur ajoutée, en France.
Ils arrivent à faire des petites citadines en France et ils vont même faire une autre voiture sur ce site de Valenciennes.
Oui, tout à fait.
Mais comment ils y arrivent, les Japonais?
Ils y arrivent avec un dialogue social qui est sans doute meilleur que chez Renault ou chez PSA, avec une organisation basée sur le lean management qui est bien meilleure, avec davantage de numérique, de digital, si vous voulez. Et vraiment, je crois que c'est une question d'organisation.
Et ça me fait penser, Sophie Fay. C'est vrai que, et d'ailleurs, c'est ce que disait l'étude Ernst & Young, quand on demandait à ces chefs d'entreprise, pourquoi vous choisissez la France et qu'est-ce que vous attendez en France? Il parle exactement ce que vient de dire Christine Cardellan. On veut être dans le digital. On vient en France parce qu'on veut être, on veut que la technologie soit reine. La question est, est-ce que ça fournit des emplois, ça? Est-ce que ça remplace une ligne de production ou est-ce que non? On va donc vers une gilet jaunisation de la société où seuls quelques happy few pourront travailler pour ces grands groupes internationaux, parce qu'aujourd'hui, il faut être dans le numérique, comme on dit.
Mais quand on regarde le contenu en emploi des projets qui ont été signés, par exemple, en 2019, on est à 30 emplois par projet en France, alors que la moyenne est plutôt 50. Donc, ils viennent plutôt parce qu'on a un outil qui fonctionne remarquablement, qui est le crédit d'impôt recherche, et parce qu'on a ces écoles d'ingénieurs et cette fabrique de cadres qui, en France, est excellente. Donc, ils viennent plutôt chercher ça. Le crédit d'impôt recherche, la recherche française, les diplômes français, plutôt que la main-d'œuvre française. Il y a encore un écart de coût aussi dans la main-d'œuvre. Il y a eu une étude du Boston Consulting Group, qui est un autre cabinet de conseil, donc qui regarde tout ça de très près pour leurs clients multinationales. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que pour un coût 100 aux États-Unis, par exemple, ce qui coûte 100 aux États-Unis coûte 95-97 en Chine et 96 en Pologne, mais en France, c'est 122. Donc, le coût d'un salarié aux États-Unis, c'est 100. Le coût d'un salarié en France, c'est 122. Le coût d'un salarié en Chine, c'est 96. D'accord. Donc, il y a encore un écart entre la France et la Chine. Mais ce qu'on voit, c'est que l'écart entre la Chine et la Pologne ou l'écart entre la Chine et les États-Unis est en train de se réduire très vite.
Vrai. D'accord. Élie Cohen, on s'enorgueillit de nos géants du CAC 40, mais est-ce qu'au fond, à l'image de Renault, ils n'ont pas, au cours de ces 20 dernières années, massivement délocalisés au détriment de l'emploi en France, alors qu'en Allemagne, ils n'ont peut-être pas de CAC 40, ils ont des entreprises plus petites, plus régionalisées, mais qui du coup ont modernisé et sont restés fidèles et n'ont pas oublié leur lender.
Alors, dans le cas de l'automobile, vous avez tout à fait raison. Ce qui est très frappant, c'est le contraste entre les stratégies, disons, de Renault et de Volkswagen. Renault, au cours des 20 dernières années, a massivement délocalisé, ça a été dit, on a divisé par deux la production locale, les effectifs, etc. Alors même que j'insiste sur ce chiffre qu'on n'a peut-être pas à l'esprit, le coût direct de main-d'œuvre pour la production d'une automobile, c'est 13% seulement du coût d'une automobile. Hein, le coût direct de production, c'est pas beaucoup. Donc on pourrait dire, ça justifie ce qu'on disait tout à l'heure sur Toyota, ben, ça justifie que Toyota vienne produire en France à condition qu'il ait des avantages par ailleurs. Et donc, les vraies charges, les vrais coûts, c'est les coûts de développement. Et d'ailleurs, deuxième élément qu'on oublie, vous savez quel est le principal établissement industriel de Renault ? C'est son technocentre, c'est-à-dire sa concentration de main-d'œuvre intellectuelle, c'est-à-dire de ses techniciens, de ses ingénieurs, de ses innovateurs et des concepteurs. Et donc, il faut bien réfléchir à ça quand on pense à l'automobile. L'automobile verte connectée autonome, ça sera de plus en plus une voiture qui comportera des composants électroniques, où il y aura de plus en plus d'intelligence, où il y aura de plus en plus de soft, et de moins en moins de la main-d'œuvre d'assemblage direct. Donc ça, ça définit le cadre. Alors maintenant, dans le cas de Renault, sa crise est telle que l'entreprise doit se réinventer fondamentalement et lui fixer comme objectif de maintenir l'emploi ou de développer l'emploi sur le territoire national, c'est vraiment pas et c'est clairement pas la priorité. Alors, ceci étant, dans une stratégie de relocalisation, si le gouvernement avait la volonté de véritablement poursuivre cet objectif de relocalisation sur le territoire national, compte tenu de ce que je viens de dire sur le faible coût de la main-d'œuvre directe pour la production sur le territoire, on peut parfaitement imaginer que l'État prenne des dispositions qui favorisent la main-d'œuvre de production sur le territoire national. Et c'est tout l'enjeu, par exemple, de ce débat qui a été ouvert sur les impôts de production, où il y a effectivement un désavantage compétitif de la France par rapport à l'Allemagne et qui fait que c'est un facteur défavorable à la localisation sur le territoire, puisque les entreprises françaises payent des impôts de production beaucoup plus élevés qu'en Allemagne. Donc vous voyez, le choix fait par l'Allemagne de garder un écosystème développé et implanté en Allemagne et qui s'appuie sur les pays d'Europe centrale et orientale a mieux fonctionné sur la durée que le système de délocalisation massive de toute la chaîne de production et des sous-traitants qui a été appliqué par la France. Mais il y a des raisons à ça. Et les raisons, c'est notamment les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, non pas tant le coût direct que, par exemple, le coût fiscal et le coût réglementaire.
Voilà. Les impôts de production sont tous ces impôts hein, que vous devez payer avant même d'avoir commencé à produire. Il y en a pour 80 milliards en France et effectivement, ils sont très faibles chez nos voisins. Et donc, c'est un désavantage pour nos industriels. Alors, après l'automobile, les médicaments, puisque c'est une information qui a choqué l'opinion en plein cœur de l'épidémie. 80% des principes actifs des médicaments sont fabriqués en dehors de l'Europe, en cause évidemment la volonté des industriels de baisser les coûts. Mais les gouvernements européens et français veulent réduire cette dépendance à l'étranger et mettre la pression sur les laboratoires pour faire revenir les usines sur le vieux continent. Sujet d'Emilien David et Erwan Ilion.
C'est une crainte qui a grandi à mesure que l'épidémie se propageait. Partout en Europe, la peur d'une pénurie de médicaments. Ici, à l'hôpital de Metz, les stocks de sédatifs diminuaient dangereusement au plus fort de la crise. Les équipes médicales ont dû rationner.
On essaie de faire des seringues moins concentrées, avec des débits moindres. On essaie de ne pas préparer des seringues en avance, au cas où elles ne servent pas.
Le manque de médicaments guettait dans les pharmacies, car la plupart d'entre eux sont fabriqués à partir de principes actifs, des molécules chimiques fabriquées en Chine.
C'est-à-dire que vous avez des produits comme le paracétamol, l'ibuprofène dit pourtant produit de base, au niveau de la médication, même médication familiale, qui sont fabriqués en Chine.
Et en Chine, premier pays touché par le coronavirus, les lignes de production ont longtemps tourné au ralenti. Un handicap pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Car aujourd'hui, l'Asie est le laboratoire de la planète. 60 à 80% des principes actifs utilisés en Europe sont produits en Chine et en Inde. Alors qu'il y a 20 ans, cette proportion n'était que de 20%. En cause, la production à bas coût proposée par ces pays émergents. L'industrie européenne n'a pas pu rivaliser. Exemple en 2008 à Roussillon, dans l'Isère. La dernière usine de paracétamol d'Europe ferme ses portes. Le paracétamol, c'est le principe actif du Doliprane. Les salariés protestent.
Aujourd'hui, vous voulez casser, vous voulez vendre le site de Pontclair et vous croyez qu'on va vous laisser faire ?
Mais le site n'est plus compétitif selon la direction.
Notre atelier produit avec des coûts de production pratiquement le double de ceux des meilleurs producteurs asiatiques.
Des prix imbattables, mais ce n'est pas la seule explication selon cet économiste.
En France, l'accès au marché est 5 fois plus long qu'en Allemagne. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique souffre des mêmes maux que le reste des acteurs du système de santé. C'est cette hyper-bureaucratisation des différents secteurs, dont l'accès au marché, qui fait que la France, avec plus de 500 jours d'accès au marché, évidemment est un marché nettement moins intéressant pour les laboratoires mondialisés.
Voilà comment l'Europe aurait perdu sa souveraineté sanitaire. Mais la crise du coronavirus a suscité une prise de conscience. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Union européenne, qui a lancé hier un vaste plan santé.
Plus jamais, nous ne voulons voir le personnel médical choisir qui va être soigné. Ce plan santé, pour la première fois, va nous permettre de créer un stock stratégique de médicaments pour être prêts en cas de crise sanitaire.
Une création de stock qui passerait par une relocalisation de la production.
Je crois que c'est la clé. Je crois que nous pouvons mettre en place toutes les mesures que nous voulons pour lutter contre les ruptures de stock. Il faut que nous ayons à nouveau de l'autonomie dans la production européenne, non pas française, mais européenne de médicaments. Je crois qu'il y a là à la fois un enjeu sanitaire, un enjeu pour la réindustrialisation du pays.
Une stratégie que semblent approuver certains industriels. Sanofi, par exemple, poids lourd du secteur, a annoncé vouloir créer un champion européen de la production de principes actifs.
Alors, question téléspectateur, Christine Cardellan. L'industrie pharmaceutique nécessite des usines type Seveso. Qui en voudra en France ?
Alors, je crois qu'il faut expliquer qu'aucun médicament n'est fait de A à Z dans la même usine. Ce que fait aujourd'hui essentiellement Sanofi, c'est qu'il prend le principe actif qui vient de Chine et qui vient d'Inde, ou qui vient d'Inde, et il l'enrobe, il l'encapsule, il le conditionne, il l'enrobe dans des excipients, hein, et il le met en forme, il le met en boîte, et il le vend comme ça. Sur aucun médicament, vous n'avez écrit « made in China », évidemment. Il n'empêche que le principe actif du médicament, il vient de Chine. Alors, pourquoi il est parti en Chine? Parce qu'effectivement, c'est moins parce que c'était moins cher qu'à cause des contraintes réglementaires qui ont poussé les usines chimiques, c'est des usines chimiques, celles qui fabriquent les principes actifs, hein, pas, c'est pas des labos pharmaceutiques, à partir dans des pays où c'était un peu plus cool d'un point de vue environnement. Donc c'est à la fois pour le coût, effectivement, même si c'est un peu stupide parce que le principe actif, c'est que 5% du coût du médicament, mais donc c'est à la fois pour le coût, parce que c'est moins cher là-bas, mais c'est aussi beaucoup pour des questions réglementaires, pour l'environnement, parce que les contraintes réglementaires en Europe étaient réellement trop fortes. Ouais. Et comme c'est des entreprises qui sont des industries qui sont très énergivores, production de CO2, etc., et très polluantes, eh bien, elles sont parties en Chine et en Inde.
Donc Sylvie Matelli, si on les rapatrie en France, cette production de médicaments, on aura des médicaments, si j'ai bien compris, plus chers, et on aura de la pollution dans nos rivières, puisque apparemment, la fabrication de ces principes actifs est quelque chose de polluant.
Tout cela est réglementé, c'est ce qui vient d'être dit, et il faudra effectivement que l'État accompagne les entreprises, parce que si vous ne voulez pas des augmentations démesurées du prix des médicaments, qui est pris en charge par la Sécurité sociale, donc qui est payé par l'État...
Donc c'est la Sécu qui a mis la pression sur les labos, ce que vous êtes en train de dire.
C'est la Sécu indirectement via les génériques ici. Il y a eu cet effet générique qui a créé une concurrence sur les médicaments du quotidien, en fait, sur les doliprane, sur ces principes actifs, qui a créé une concurrence qui, outre effectivement toutes les réglementations, a poussé les laboratoires à délocaliser, à s'installer en Chine ou en Inde. Je crois qu'il y a quand même deux phénomènes à distinguer. Donc il y a ces médicaments du quotidien qu'on prend tous, qui connaissent des pénuries depuis une dizaine d'années à présent et depuis qu'on a délocalisé à certains moments, parce qu'il y a des épidémies et qu'on a besoin d'un peu plus de médicaments que d'habitude. Et puis, il y a l'affaire des respirateurs. Et là, c'est un autre sujet. Là, c'est un sujet où finalement, on a fermé les usines, on s'est rendu dépendant de pays étrangers. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant de relocaliser, parce que ce sont des produits dont on n'a pas besoin massivement tout le temps, mais on a besoin de pouvoir très vite remettre en production. Donc, je pense qu'on va avoir deux stratégies différentes. En fait, la relocalisation pour des raisons de sécurité nationale et puis des stratégies de conversion rapide des productions pour fabriquer des respirateurs quand il y en a besoin ou autre.
Mais Élie Cohen, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait rapatrier la valeur ajoutée, ce qui était stratégique dans cette filière de la santé. Qu'est-ce qui est stratégique ? La production du principe actif ou la recherche ? le fait que ce soit en France, dans un laboratoire français, qu'on découvre la formule Eureka d'un vaccin qui se vendra dans la terre entière à des milliards de doses.
Alors, le problème, c'est que la crise est générale. Il y a 20 ans, l'industrie pharmaceutique française était leader en Europe. Et l'industrie du vaccin en France était l'un des leaders mondiaux. Donc la question, c'est comment en 20 ans a-t-on perdu ces positions particulièrement fortes? Alors il y a trois facteurs qui ont joué. Le premier facteur, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la politique de la sécurité sociale, ça a été la politique du prix minimum. Or, dans les négociations tarifaires entre les laboratoires pharmaceutiques et la sécurité sociale, il y a un des enjeux qui est la localisation sur le territoire national de la production, pas simplement des principes actifs, mais également des produits pharmaceutiques eux-mêmes. Et donc, on a assisté à une attrition permanente de l'industrie française qui, à cause des prix pratiqués, cessait d'être un pays attractif pour la localisation de laboratoires pharmaceutiques en France. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'en matière de recherche, les grands laboratoires ont perdu la main et le rendement de l'innovation pharmaceutique des grands laboratoires a baissé. Ce qui fait que les grands laboratoires se sont mis de plus en plus à acheter des start-up pour essayer de renouveler leur pipe de produits. Et donc, il s'avère qu'en matière d'innovation, de nouvelles molécules, de nouveaux produits, les grands champions nationaux sont plus allés acheter des start-up aux États-Unis et ailleurs. Et donc, la partie la plus intense, on va leur ajouter, c'est-à-dire cette création de nouvelles molécules, là aussi, c'est délocalisé de France vers les États-Unis, le Royaume-Uni et ailleurs. On a perdu la main. Et puis, troisièmement, c'est l'argument du coût qui joue, lui, et de la pollution qui joue pour les principes actifs. Les prix dérisoires qu'on paye nos aspirines, etc., ont fait que l'argument du coût est devenu décisif pour la fabrication des principes actifs, pour le paracétamol et ailleurs. Et donc là, il y a eu des usines qui se sont installées en Chine, en Inde et ailleurs. Et en plus, les réglementations environnementales ont fait que les dernières usines qui existaient en France ont progressivement disparu. Alors oui, Emmanuel Macron et l'Union européenne ont pris conscience du problème et ils veulent relocaliser. Alors ils veulent relocaliser pas simplement les produits à plus forte valeur ajoutée, parce que notre dépendance en matière de principes actifs pharmaceutiques est devenue insupportable. Et donc il se trouve que Sanofi, avant même la crise du Covid, voulait filialiser son activité principes actifs. Et elle voulait même la coter de manière séparée, en fait parce qu'elle ne voulait plus emporter véritablement la charge. Et donc ça, c'est une opportunité majeure. Si nous, Français, si nous, Européens, voulons recréer ce maillon de la chaîne de valeur en Europe, il y a une opportunité, c'est qu'on peut venir en aide, voire par une participation en capital, pour qu'on recrée sur le territoire national ou sur le territoire européen une industrie du principe actif. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des tas de rapports qui sont sortis de l'Académie de pharmacie, du Sénat, qui ont montré que les problèmes de pénurie en France de médicaments, ce n'est pas que des problèmes de principes actifs, c'est que dans toutes les catégories de pharmacie, c'est-à-dire les antibiotiques, les anticancéreux, les vaccins, dans tous les domaines, on constate des pénuries périodiques. Alors ces pénuries tiennent à des ruptures d'approvisionnement, aux stratégies des multinationales d'optimisation de la localisation de leur production. Et donc là, on a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va accepter de rationner les traitements ou est-ce qu'on va se donner un moyen de devenir plus robuste? Alors là, l'idée, ce serait plutôt de créer des stocks de précaution ou bien de disposer de capacités productives qu'on met sous cocon à certains moments ou qu'on mobilise à d'autres moments. En tout cas, l'Union européenne s'est emparée du problème et elle considère que c'est un problème là aussi à traiter. Et enfin, troisième volet, c'est la politique d'innovation et de localisation des innovateurs sur le territoire européen. Et là aussi, il y a une action européenne qui va être lancée. Donc on voit, c'est toute la filière pharmaceutique qu'il faut repenser. Et là, la question de la localisation se pose parce que c'est un impératif de sécurité sanitaire et donc un impératif de sécurité civile. Donc c'est un enjeu de souveraineté.
D'accord. Sophie Fay, quand on demande à Sanofi de rapatrier en France, de relocaliser la production de médicaments, est-ce qu'ils vont au BH? Je dis ça parce qu'il y a eu cette polémique. On voit bien que ces grands groupes Sanofi, il a plus ou moins annoncé que, comme le gouvernement américain lui avait donné 500 millions de dollars, s'il trouvait un vaccin, c'est peut-être les Américains qui l'auraient en premier. Ce que je veux dire par là, c'est que ces géants du CAC 40, est-ce qu'ils obéissent à Emmanuel Macron, le petit doigt sur la couture, est-ce qu'ils n'ont pas un peu oublié leurs origines françaises ?
Alors, la France, pour Sanofi, maintenant, c'est devenu un tout petit marché par rapport à l'ensemble de son chiffre d'affaires mondial.
C'est moins de 10%.
C'est moins de 10%. Et surtout, surtout, en fait, Gérald Darmanin, par exemple, quand on lui pose la question, il dit qu'il faut peut-être commencer par revoir la politique du médicament, la politique du prix du médicament, parce que, justement, ils se plaignent tout le temps de ne pas vendre assez cher en France. Et donc, parfois, même quand il y a un médicament produit à Bourgoin-Jallieu, donc en France, on le réserve d'abord à des marchés à l'export parce qu'il est payé plus cher par des clients étrangers que par des clients français. Donc la localisation ne résout pas tout. Mais alors donc comment on fait? Et ça c'est un problème vraiment extrêmement compliqué si vous voulez. Si vous augmentez le prix du médicament ou si vous faites comme Donald Trump a fait, comme ça, enfin, en tout cas l'agence américaine BARDA a fait, vous donnez beaucoup d'argent à ces laboratoires pharmaceutiques et puis que derrière ils font beaucoup de profits et qui verse beaucoup de dividendes, vous vous dites,
c'est l'État qui paye les dividendes. Quoi.
Qui est gagnant dans tout ça. Et en même temps, il y a d'autres moments où, par exemple, si vous ne leur donnez pas d'argent, ils font un vaccin, le vaccin est prêt, ils commencent à le mettre en production, puis on se rend compte que ce Covid-19 s'arrête complètement et disparaît à l'automne et qu'on n'en entend plus parler de la même manière qu'on n'a plus entendu parler du H1N1, eh bien, ils auront mis ces vaccins en production, ils auront perdu tout ce qu'ils ont acheté. Ouais. Donc, la difficulté, c'est de savoir si jusqu'où il faut financer leurs risques et jusqu'où ils utilisent l'argent qu'on leur donne pour financer les risques pour verser des dividendes aux actionnaires. Et ça, c'est un débat qui est vraiment difficile à trancher. À chaque fois, il y a un pari de l'entreprise, mais un pari des pouvoirs publics aussi. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir plus globalement à l'économie de ce secteur? Est-ce que ça doit devenir, vous savez, on parle parfois de bien commun, de quelque chose qui doit être sorti de la régulation du marché, mais on ne sait pas très bien, quand on le sort de la régulation du marché, quel type de régulation on y apporte et si on ne risque pas d'avoir un effondrement de l'innovation s'il n'y a pas cette énorme chance de gagner beaucoup d'argent à la fin. Mais c'est un débat passionnant.
Alors, après les médicaments, un autre article qui s'est énormément mondialisé, c'est le textile. Le textile qui a été massivement délocalisé dans les années 90, mais depuis quelques années, on voit rouvrir des entreprises en France. Des équipes de C'est dans l'air se sont rendues dans une usine de chaussettes qui a redémarré avec succès sa production il y a 3 ans. Et pour passer le cap difficile de ce coronavirus, l'entreprise s'est reconvertie partiellement dans la production de masques. Reportage à 3 de Paul-Rémy Barjavel avec David Lemarchand et Mélanie Nunes.
Des métiers à tisser des chaussettes qui tricotent désormais 24 heures sur 24 des masques en tissu. 5000 unités sortent tous les jours de cette usine.
Normalement, cette machine aurait dû être à l'arrêt et grâce au travail de l'équipe, on a su se réinventer en très très peu de temps avec la crise du Covid. Nous, ces masques-là ont été salvateurs, ont sauvé notre année, ont sauvé nos emplois.
En 72 heures, ils ont dû trouver la bonne technique homologuée pour pouvoir commercialiser ces masques.
Au début, très basique, on a pris une chaussette, on l'a coupée, on l'a mis devant notre visage et là on a dit comment on peut faire en fait. Et du coup, on a mis en place tout un tas d'essais.
Pendant le confinement, l'usine n'a livré que des masques, 20% seulement de l'activité, mais essentiel pour sauvegarder les 48 emplois et éviter la faillite.
Ça vous met forcément en grande difficulté. En plus, nous sommes dans une industrie textile où ça reste quand même une industrie très fragile. On allait forcément licencier 20 à 30% de nos effectifs. On était, nous, on est vraiment attachés à nos emplois, on est vraiment attachés à nos salariés qui mouillent le maillot depuis 1961, qui se battent bec et ongles pour que cette entreprise perdure.
Depuis 3 semaines, la production de chaussettes a été relancée. 1 millier de masques ont été livrés. 4 fois plus commandés. Alors, pour répondre à la demande, ils ont embauché 6 intérimaires. Tismaille, l'une des 5 dernières usines de fabrication de chaussettes en France. Il y a 30 ans, le pays en comptait une centaine. Dans les années 2000, la désindustrialisation engendre une crise du textile sans précédent. Des milliers d'ouvriers se retrouvent alors au chômage.
Moi, j'ai commencé avec des vieilles machines comme ça. Ça a démarré en 85. C'était les premières machines qui fermaient les pointes.
Bartholomé Ruiz exerce depuis plus de 40 ans dans la chaussette. Ce bonnetier a gardé les souvenirs de l'époque où la maille était reine.
L'atelier avec des séries entières de 34 machines, il faut dire qu'on produisait jusqu'à 35 millions de paires de chaussettes par an. Là, c'était l'ancienne équipe, ça rappelle des bons souvenirs avec les derniers copains de travail. Quoi.
Durant sa carrière, il a enchaîné des périodes de chômage, des petits contrats dans un secteur très fragile. Mais il y a 20 ans, Tismail lui a donné sa chance.
5 plans de licenciement, ça marque. C'est très difficile de trouver, de retrouver de l'emploi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. J'ai des collègues qui ont changé de métier.
Une usine qui a toujours fait face aux difficultés. Menacée de fermeture à plusieurs reprises, elle doit sa survie à son jeune patron, Benoît Seguin, qui souhaitait réimplanter le textile dans la ville. Il y a 5 ans, il rachète une partie de cette bonneterie et décide de diversifier la gamme de ses produits.
Donc par exemple, ça, c'est une chaussette, c'est un de nos best-sellers. C'est un modèle de running. Là, c'est une chaussette de l'armée que portent nos combattants. C'est vraiment des chaussettes hyper techniques parce que nos combattants, parfois, ils n'enlèvent pas leurs chaussures pendant au moins une semaine.
Des chaussettes made in France pour les sportifs comme les skieurs ou les cyclistes, mais aussi très haut de gamme. En moyenne, ces paires de chaussettes coûtent une 20aine d'euros.
En plus d'être une marque, on veut vraiment devenir un label de fabrication et c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, la chaussette de France, c'est fabriquée chez Tismail, mais on fabrique de la chaussette depuis bientôt 60 ans, on connaît notre métier.
Il souhaite aujourd'hui recruter des techniciens qualité pour s'agrandir. L'usine produit chaque année 3 millions de paires, des chaussettes bleu-blanc-rouge, vendues dans plus de 500 boutiques en France et 200 à travers toute l'Europe.
Voilà, mais on rappelle, hein, c'est l'exception, puisque chiffre INSEE, 87% des textiles achetés par les Français sont importés. Justement, question téléspectateur, le textile n'est-ce pas une industrie trop polluante, Sophie Fay? C'est vrai que c'est tellement pas cher maintenant que c'est presque devenu un produit jetable, on a l'impression, les vêtements.
Oui, on dit même que c'est l'industrie la plus polluante, au point que plusieurs groupes du textile se sont regroupés pour créer le Fashion Pact pour le climat et essayer de travailler pour faire baisser les émissions. Et ils y travaillent, mais ça n'avance pas très vite. Il y a une start-up à Clermont-Ferrand, Carbios, qui essaye de travailler sur une molécule, une enzyme qui permet de recycler le plastique. Et ils ont contacté ce Fashion Pact pour essayer de travailler avec eux sur les tissus en polyester. Et ils ont eu un bon accueil, mais ça ne va pas très vite, les discussions. Donc ça va beaucoup plus vite avec les Nestlé, avec les L'Oréal, qu'avec les entreprises de textile. Donc on n'est pas au bout de ce problème.
Et c'est vrai, Christine Cardellan, quand on va chez les marchands, la chaussette made in France, elle est 4 fois plus chère que la chaussette made in Bangladesh ou in Vietnam. Mais oui, on oublie totalement les émissions de CO2, etc. Et même les conditions sociales dans lesquelles sont fabriqués ces vêtements importés.
Alors c'est vrai que depuis le Rana Plaza, on se rappelle les 1000 ouvrières mortes au Bangladesh qui étaient des ouvrières du textile, depuis cela on fait quand même beaucoup plus attention à ce qu'on produit, y compris en France. Ce qui est resté en France, je dirais, parce que tout avait disparu dans les années 70-80, hein, et depuis 2016, en revanche, on recrée des emplois en France, plus qu'on en supprime. Mais ce qui est resté en France ou ce qui revient, c'est des choses qui sont peut-être moins polluantes. C'est les tissus très haut de gamme, hein, c'est les foulards Hermès qui se développent à l'infini, dirait-on, les Dolce Gabbana, etc. C'est la soie, c'est la dentelle, c'est les tissus techniques tels qu'on en a vu tout de suite, dont un tissu capable de détruire le coronavirus en une heure, hein, fabriqué par une petite PME de l'Isère qui s'appelle Serge Ferrari. C'est les textiles durables aussi, c'est-à-dire c'est des textiles qui sont éco-responsables, qui produisent effectivement, c'est du coton fait à partir de plantes, alors que le polyester est fait à partir de pétrole. Voilà, et c'est des tissus waterproof, c'est, je ne sais pas, les parapluies de Cherbourg qui réinventent des tissus déperlants avec des parapluies qui résistent à 160 km/h. Enfin, ce sont des choses très pointues, très techniques, qui peuvent être vendues cher, mais qui ne sont pas forcément aussi polluantes que les grandes usines de masse du Bangladesh ou de Chine.
Voilà, donc là aussi, hein, c'est comme pour l'automobile, c'est par le haut de gamme, par la valeur ajoutée, par la technologie, hein, qu'on arrivera à garder et à reconquérir des emplois. Allez, tout de suite, on passe à vos questions SMS. Alors, question SMS, est-ce rentable de sauver Renault, Sylvie Matelli? On a vu aujourd'hui, il y avait une image des salariés de Codan qui était évidemment ravi, parce que, mais il y avait de l'émotion, je ne sais pas si on voit la photo, au bord des larmes quand ils ont appris que leur usine n'allait pas fermer. Parce qu'on oublie que derrière ces usines, ce sont des filières, mais ce sont des territoires hein, qui sont totalement irrigués par ces emplois industriels.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Il y a sauver Renault tout de suite à court terme et ne pas fermer les usines et ne pas licencier les personnes telles que ça a été annoncé. Et ça, c'est vrai que c'est un choix qui est dur à faire. Il y a des conséquences sociales qui sont extrêmement dramatiques pour ces personnes, mais maintenir ces usines aujourd'hui pourrait signifier à moyen terme d'aggraver la situation de Renault, qui, on l'a déjà dit, est une entreprise en crise. Par contre, sauver Renault, sauver l'entreprise, ça peut aussi vouloir dire investir dans la modernisation de cette entreprise, lui permettre de prendre le virage de la transition écologique et de redevenir demain une entreprise parmi les plus prospères de la planète. Et au-delà de ça, sur toute l'industrie et la relocalisation, et on l'a vu tout au long de cette émission, il y a systématiquement ces enjeux-là, c'est-à-dire l'enjeu de souveraineté. Est-ce qu'on a envie de véritablement abandonner toute l'industrie comme on l'a fait depuis des années? Et on s'est rendu compte ces dernières années, pas seulement avec le Covid-19 d'ailleurs, déjà après la crise de 2008, on se rend compte des conséquences négatives que ça a. L'industrie, vous l'avez dit, c'est des territoires. Si l'Allemagne est socialement plus stable, on va dire, plus apaisée, c'est probablement parce que l'industrie a été préservée. L'industrie, à la différence des services, elle n'est pas que dans les grandes villes, bien au contraire, elle maille un territoire. En plus, en Allemagne, vous avez l'organisation de véritables écosystèmes autour de cette industrie, donc à la fois des systèmes de financement, des banques et des banques régionales, à la fois les landeurs et les décideurs de ces pays. Donc vous avez tout cet aspect-là. Et puis l'industrie, c'est aussi l'innovation. Et on s'est rendu compte un peu tardivement en France que l'industrie, ça drainait tout un ensemble d'activités à forte valeur ajoutée et qu'il était peut-être nécessaire de les préserver quoi qu'il arrive.
Oui, Sophie Fay.
Mais ça valait, on aurait pu se poser la même question quand on a sauvé PSA aussi au moment de la crise financière de 2008-2009. Et finalement, l'État a fait une bonne affaire et on a mis encore plus d'argent que dans Renault aujourd'hui. Et PSA, qui a réussi à trouver le bon manager, traverse la crise beaucoup mieux. Ouais. Est en train de racheter Fiat Chrysler. Donc Fiat Chrysler, c'est un très bon exemple. Et on voit la difficulté qu'on a à relocaliser. Chaque fois qu'on parle de relocalisation, on cite des tout petits exemples. Donc la priorité aujourd'hui, ça doit vraiment être de sauver l'existant, en fait, d'essayer de réussir à faire repartir l'existant. Il va y avoir un nouveau patron chez Renault, un nouveau patron opérationnel. Espérons qu'il réussisse à faire la même chose que ce que Carlos Tavares a fait chez Peugeot.
Il veut redonner de la valeur à la marque Renault, dit-il, hein, Luca Di Maio. Hein,
en voilà. Tout cas, c'est un fou de voiture, il y arrivera peut-être.
Relocaliser, c'est bien, mais comment rester compétitif avec des charges exorbitantes? Eli Cohen, ce qui est curieux, c'est que dans le rapport EY, les patrons étrangers, quand on leur disait « qu'est-ce que vous attendez ?», ils ne parlaient pas de fiscalité. Ils parlaient en un de l'importance du plan de relance et en deux de la nécessité d'être numérique et d'être digitalisé, ce dont on parlait tout à l'heure.
Ben, c'est toute la question. Si vous voulez, à partir du moment où on décide effectivement qu'une activité industrielle est une activité stratégique, à partir du moment où on considère que c'est une activité même de souveraineté. Je prends un exemple. On avait parlé de l'affaire de la 5G qui est fabriquée par Huawei, qui est un Chinois. Et puis on a découvert que si nos réseaux étaient des réseaux Huawei, les Chinois pourraient nous espionner. Et donc les gouvernements européens ont dit « attention, il n'est pas question d'acheter du matériel Huawei sans considération de sécurité ». Eh bien, si on considère que pour des raisons de sécurité nationale, il faut que les réseaux de télécom européens soient des réseaux qui soient construits autour de solutions technologiques européennes, or il se trouve qu'avec Nokia et Ericsson, nous avons les deux leaders mondiaux dans les technologies de 5G, si on décide que c'est un choix stratégique, alors la politique de la commande publique doit conduire à privilégier ces solutions européennes. Et autour de ces solutions européennes, on pourra bâtir des réseaux qui seront des réseaux qui ne risqueront pas d'être contrôlés ou hackés par des espions chinois ou autres. Donc la question est, qu'est-ce qu'on considère comme stratégique? Je viens d'évoquer le cas des réseaux de télécom. Ça peut être le cas également des réseaux énergétiques. On sait par exemple que GE essaye de se retirer sur la pointe des pieds de de certaines activités qu'elle avait acquises auprès d'Alstom et qui sont fabriquées à Belfort, est-ce qu'on considère que les équipements en matière de génération électrique sont stratégiques ou pas? Donc, si vous voulez, à partir du moment où on décrète qu'une activité est stratégique, par exemple, le Rafale, on n'est pas allé le fabriquer au Maroc. On a considéré que l'objectif d'indépendance nationale en matière d'armement aéronautique faisait qu'on mettait les moyens et tout naturellement, cette activité a été localisée sur le territoire national. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme enjeu de souveraineté, qu'est-ce qu'on considère comme activité stratégique et à partir de là, on peut mettre les moyens. La nouveauté quand même, c'est que cette préoccupation qui était très française, vieux jeu, souverainiste, colbertiste, commence à évoluer et à percer au niveau européen. Et on voit que dans le cadre de ce plan de relance, ces considérations de souveraineté économique européenne, notamment dans le domaine numérique que vous évoquiez tout à l'heure, commencent à percer. Et ben, si ça va encore davantage, peut-être qu'on va s'attaquer à la question des plateformes numériques, peut-être qu'on va s'intéresser au cloud souverain, peut-être qu'on va commencer à considérer qu'en matière de composants électroniques, il faut qu'on fasse quelque chose, etc.
Pourquoi ne pas nationaliser les entreprises clés pour la santé, Sophie Fay, si c'est stratégique, nationalisons.
Eh bien, Sanofi est une des trois entreprises les plus chères, je crois, de la Bourse de Paris. Donc, ça coûterait quand même énormément d'argent à l'État. Et pourquoi elle est chère? Parce qu'elle est très rentable et qu'elle fait beaucoup de bénéfices. L'autre chose, c'est qu'on ne veut pas un médicament national, on veut le médicament le plus efficace. Et là, si c'est une entreprise chinoise qui trouve le vaccin contre le Covid ou une entreprise américaine, on ne voudra pas attendre que l'entreprise nationale sorte le vaccin.
Quand on voit la façon dont l'État gère les masques, vous doutez de la capacité de l'État, d'une entreprise nationalisée à trouver rapidement un vaccin?
Non, je crois que c'est la compétition mondiale qui fait que c'est aussi parfois l'entraide mondiale. Il faut que ça cherche un peu partout pour que le vaccin arrivera. C'est peut-être un Français qui va le trouver aux États-Unis. Il y a une entreprise, la Moderna, dont on a déjà parlé, qui est dirigée par un Français et qui est très avancée. Mais ça sera peut-être une entreprise britannique, ça sera peut-être Sanofi et son partenaire britannique. On ne sait pas. Et donc, est-ce que on a envie d'avoir une entreprise nationale ou est-ce qu'on a envie d'avoir le meilleur médicament? Donc, c'est des débats passionnants, mais c'est d'une complexité incroyable.
Des médicaments produits en Europe, oui, mais quand on voit la foire d'empoigne entre pays européens pour les masques, on peut en douter. Sylvie Matelli, c'est vrai qu'en tous les cas, on a vu qu'aux États-Unis, ce qu'avait dit le patron de Sanofi, c'est plus simple parce qu'il y a un ministère de la Santé et c'est plus simple de travailler avec les Américains qu'avec en Europe où c'est chacun dans son coin et où il n'y a pas de centralisation, quoi.
C'est vrai, mais à un niveau européen, on a quand même plus de poids dans la négociation avec d'autres partenaires ou avec les industriels que tout seul. Donc, et en plus, ça a plus de sens parce que dans la complexité de ce débat, il y a des arbitrages, comme le décrivait Sophie Fay, il y a des arbitrages qui doivent être faits, des arbitrages qui ne sont pas simples. Et c'est vrai que c'est des arbitrages qui sont peut-être plus judicieux, il est peut-être plus judicieux de les faire à plusieurs que tout seul, en fait, et de chacun de notre coin gaspiller notre énergie et notre argent à vouloir assurer notre souveraineté.
Christine Cardellan, quel secteur de l'industrie pourrait être relocalisé? Est-ce que les industries polluantes, malheureusement vous avez peu de temps, mais si vous avez...
À partir du moment où on met du numérique dans la production, à partir du moment où ces entreprises sont digitalisées, automatisées, je pense qu'on peut relocaliser beaucoup de choses. Parce que les coûts de manœuvre, on l'a vu, en Chine sont plus si différents de ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Et la différence, on peut la faire sur l'ancien effet de taille qui ne joue plus si on a des petites unités agiles, très numérisées, très, très souples, très...
Voilà, digitalisons et on réussira. C'est sur cette note d'optimisme que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'est dans l'air rediffusé ce soir à 23h20. Et vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.